You unlock this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension. A dimension of sound. A dimension of sight. A dimension of mind. You're moving into a land of both shadow and substance, of things and ideas. You just crossed over into the Twilight Zone.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à la radio Orthodidacte. Ici, on est libre comme l'air, c'est pour ça que vous allez trouver plein de choses différentes. Mais avant de passer à l'émission, je vais vous présenter la radio. Tout d'abord, c'est une radio qui se trouve au centre de jour Antonin Artaud à Reims. Elle a été créée par une stagiaire interne en psychiatrie et une journaliste qui s'est reconvertie pour devenir psychologue. Cette radio est animée par des patients. Malgré ce qu'on peut croire, c'est pas parce que la radio se trouve dans un lieu de santé mentale qu'on va parler que de ça. On est une radio riche et variée qui parle de la joie, de l'espoir, du désespoir, de l'amour, un peu de politique et surtout de la vie. C'est Orthodidacte. Alice va vous présenter le thème de l'émission d'aujourd'hui.
Bonjour à tous, nous allons parler de l'utopie et de la dystopie. L'utopie est définie dans le dictionnaire comme un projet ou récit d'un idéal imaginaire et illusoire. Son contraire, la dystopie, est définie comme le récit d'une société imaginaire, difficile ou impossible à vivre. L'une incarne l'espoir d'une société idéale et l'autre, une société plus sombre. L'utopie représente un idéal, un équilibre parfait, où les injustices disparaissent, où chacun trouve sa place dans une harmonie collective. C'est ce monde parfait où tout fonctionne à merveille, où chacun vit en paix. Elle est l'incarnation de l'optimisme, l'utopie et la possibilité d'imaginer le meilleur. La dystopie est moins réjouissante. C'est l'avenir qui tourne mal, celui où on se réveille un matin dans un monde méconnaissable. Elle nous confronte à un avenir plus sombre. Elle met en lumière les failles de notre société. Elle questionne nos libertés, notre rapport au pouvoir, au progrès et nous oblige à nous interroger sur notre société. C'est le pessimisme.
Alors écoutons maintenant Quentin qui va nous parler de concepts littéraires sur l'utopie.
Bonjour, donc moi c'est Quentin, je vais vous parler du concept d'utopie plutôt dans son apparition de texte philosophique. Et j'aimerais introduire mon propos avec un texte là, que je relisais de Jean Houry, qui est un psychiatre qui a travaillé à la Borde et qui a sorti un texte, c'est Utopie, Atopie, Utopie. Alors je ne me rappelle plus tout à fait de l'ordre, mais donc il parle du concept d'utopie. À l'intérieur de ce texte, il explique comment il a essayé, en fondant une clinique comme ça de psychothérapie institutionnelle, les personnes qui ont parlé de son expérience ont d'abord nommé ça comme un phalanstère, donc qui est très développé par Fourier et qui se rattache directement à une forme d'utopie concrète. Et donc, en lisant son texte, je me posais un peu la question de ce que ça pouvait signifier, quels étaient un peu les éléments sur lesquels ça s'appuie, ce type de remarque. Et donc là, je vais vous présenter plusieurs auteurs qui m'ont intéressé à ce sujet.
Il y a Karl Mannheim qui lui fait la différence en 1929 entre deux choses qui différencient, donc c'est-à-dire l'idéologie et l'utopie. Donc l'utopie, selon lui, est plutôt orientée vers l'avenir et cherche à remodeler complètement la société, tandis que l'idéologie, elle est plutôt ancrée dans le présent et sert à justifier l'existant. Bon, moi, je trouve que cette tension, elle est intéressante, même si j'ai lu des critiques assez fortes, notamment le fait que son concept d'utopie est souvent porté par des groupes sociaux et des intellectuels qui ne sont pas nécessairement enracinés dans les conditions réelles de la vie quotidienne des masses populaires. Bon, ça, c'est une critique plutôt philosophique. En tout cas, ça permet, selon lui, il arrive à critiquer quelque chose au niveau du marxisme qui me paraît assez intéressant, c'est que le matérialisme historique démasque comme idéologique, c'est-à-dire inféodé à l'aide sociale, tous les points de vue sauf le sien propre. Donc ça permet d'élaborer des critiques de ce qui a pu mal se passer aussi par la suite, ou pendant ce temps-là. Après, il y a Ernst Bloch, né en 1885 et mort en 1977, qui est un philosophe allemand qui développe dans le principe espérance une conception originale de l'utopie. Pour lui, l'utopie n'est pas une simple fiction, mais une dynamique qui pousse l'humanité à transformer le monde. Donc ça, je trouve que ça fait écho à des discussions qu'on a pu avoir entre nous, c'est-à-dire que des utopies abstraites, inaccessibles, font partie effectivement de ce qu'on groupe sous le terme d'utopie, mais que selon cet auteur, donc Ernst Bloch, il y a des utopies concrètes qui ouvrent sur des possibles réalisables. Alors, moi, je trouve que justement là-dessus, il va valoriser le rôle de l'imaginaire et de l'espérance dans la transformation sociale, ce qui me paraît être intéressant à défendre. Et puis aussi, la particularité de cet auteur, c'est que il y a Walter Benjamin, qui est aussi très repris qui s'est réappuyé sur ses thèses, les thèses de Ernst Bloch, et qui a parlé également de théorie autour de l'utopie, sous l'angle plutôt de la rédemption historique. Mais en tout cas, il y a vraiment des grands noms comme ça qui ont pu s'inspirer de cette théorie philosophique comme point d'ouverture, je trouvais intéressant. En 1964, donc encore un peu plus tard, dans L'homme unidimensionnel, il y a Herbert Marcuse, qui est un philosophe et sociologue allemand, qui critique la société industrielle avancée, qui l'accuse de supprimer tout espace d'utopie en neutralisant les forces critiques. Il plaide pour une utopie qui libère l'individu de la domination technologique et sociale. Il voit dans l'art et l'imagination des moyens d'émancipation capables de révéler les possibles alternatives à l'ordre établi. Alors je trouve que ça, ce travail, peut particulièrement nous concerner. En tout cas, moi, j'avais comme écho travail de création ou d'autres choses qui peuvent avoir un certain intérêt comme ça de critique. Je pense à l'art, je pense à beaucoup de choses. Et donc lui, Herbert Marcuse, qui vient le lier à quelque chose de l'imaginaire, de l'utopie qu'on pourrait essayer de penser ensemble. Et sinon, il y a Miguel Abensur, plus actuel, hein, qui est seulement mort en 2017, et qui est un politologue et philosophe français, qui redonne une actualité au concept d'utopie en le définissant comme une éducation permanente à la liberté. Alors moi, je trouvais que cette définition m'a marqué, parce que c'est une définition assez simple et qui, je trouve, reprend quand même pas mal des essais ou des échanges qu'on peut avoir. C'est-à-dire que dans les échanges, il y a une fonction, qui est critique, une fonction critique dans les points de vue qu'on peut aborder, les débats qu'on peut avoir. Et ça me paraissait important, ça me paraissait intéressant de pouvoir voir cet aspect un peu d'éducation permanente. Après, bon, là, c'est la présentation d'un paysage de philosophes que j'ai choisi un peu de manière arbitraire, hein, qui ont parlé d'utopie. Il y en a eu d'autres. Et peut-être en contrepoint, en effectuant des recherches, il y a peu de développement de l'utopie chez les femmes philosophes. J'ai regardé un peu Donna Haraway, qui est quand même une des grandes philosophes écoféministes actuelles, qui est née en 1944. J'ai été surpris de son côté plutôt la critique comme proposition construite sur des modèles normatifs et excluants, où elle prône plutôt au contraire l'ouverture d'espaces fondés sur la diversité, la multiplicité et le refus de grands écrits unificateurs. Bon. C'est juste pour dire que même d'autres personnes comme Hannah Arendt, qui insistent plutôt sur l'action politique, se dégagent un peu de ce point de vue. Bon, c'était juste pour pouvoir faire un petit peu un contrepoint, quoi. Et voilà. Donc j'en viens à la fin de cet exposé. Je voulais vous dire que j'ai beaucoup apprécié faire ce travail et j'espère que ça a été partagé.
Est-ce que les guerres démarrent d'une utopie ? Ou plutôt, un monde sans guerre est-il utopique ?
Pour moi, non. D'abord, nous sommes bombardés d'images violentes. Nous présentons les différentes guerres sur notre chère planète Terre et ça devient de plus en plus insupportable. Le monde change et les informations vont de plus en plus vite. Nous voyons en direct sur nos écrans tous les conflits du monde, minute après minute. Le trafic d'armes est important et il faudrait en priorité s'attaquer à son démantèlement. Tous les dirigeants du monde devraient déposer les armes, les mettre dans les casernes et les détruire. Tous les chefs des armées devraient arrêter les conflits et se rassembler pour signer des traités de paix durable. Pour moi, c'est cela l'utopie de notre monde. En tout cas, c'est la mienne. J'y crois.
Pierre. Should I stay
or should I go? L'utopie, selon moi. Nous vivons dans un monde de brutes. L'utopie ne peut pas complètement exister. Il y a toujours des guerres, des enfants vivant dans un pays totalitaire ou un pays où ils meurent de faim. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Certains deviennent des soldats car ils sont traumatisés par la guerre. Je pense que l'utopie est difficile à s'installer dans le monde. Il faudrait stopper toutes les guerres afin que les enfants puissent vivre dans la paix. Le doux regard d'un enfant vivant dans une société utopique, favorisant son bien-être, peut rêver sereinement à son avenir.
Merci Valérie. Poursuivons avec Océane qui va nous lire un peu de poésie.
J'ai 6 pieds sous terre, je parcours le monde pour trouver la lumière, mais je vois des ténèbres de misère. Pourquoi suis-je aussi parano? Je m'assèche mon cerveau, je me raconte des ragots pour faire souffrir mon ego. Pourquoi je me sens seul face à cette montagne qui a une grande gueule? Je m'ai fait tant de mal, moi je veux juste croquer la vie comme un fruit judeux qui me régale. Je grignote chaque parcelle de mon âme qui pourrit et se transforme en du sable. Fais-toi confiance, la vie est une chance. Bonheur ou malheur, ainsi va la vie, mais ne t'inquiète pas, il y a toujours une lueur. Il y a toujours quelqu'un pour te tendre la main, car on est humain. Bébé, on a besoin d'une mère pour nous nourrir de son sein. L'amour est notre seul gain dont on a besoin. Dystopie. Pourquoi je me sens si salie par une vie sans répit? Utopie. J'aimerais tant donner une vie meilleure pour les gens qui vivent dans le déni. Utopie. J'aimerais être une fleur qu'on arrose et qui s'épanouit. Dystopie. Fini le chaos qui pourrit comme une carie. On veut un espoir, un dernier cri qui souffle jusqu'à l'infini.
Artodidacte, c'est des contrastes.
Après cette pause poétique, Céline va nous parler de sa vision de l'utopie.
Au premier abord, quand on me demande qu'est-ce qu'une utopie, mon réflexe est de répondre « le monde des bisounours ». Or, si on s'y attarde, ce monde d'ours en peluche, avec un thème différent sur le ventre, comme un petit cœur ou autre, et plein de belles couleurs, n'est pas réellement utopique. En effet, quand on regarde le dessin animé de plus près, on se rend compte que leur monde n'est pas si idéal que cela. Étant donné qu'on y rencontre aussi des enfants déprimés, harcelés, qui fuguent ou ont peur du noir. Voilà donc l'utilité des bisounours. Aider ces enfants, grâce à leur gentillesse, leur bienveillance, dans leur monde où domine la confiance et l'entraide. C'est ainsi qu'ils luttent, par exemple, contre les dérives totalitaires, font face à des problèmes climatiques, comme un manque d'eau, par exemple. Bref, finalement, leur monde n'est pas tout beau, tout rose. Au contraire, ils se rapprochent un peu d'une autre, puisqu'ils rencontrent aussi des problèmes à résoudre. Cependant, eux utilisent une énergie positive pour trouver les solutions. C'est en cela qu'on aurait bien besoin d'eux dans notre monde.
Legalize it.
Ne touchez pas à la radio.
Alors, je vous ai écrit une petite chronique que j'ai intitulée « Une série en avance sur son temps ». Après plusieurs heures de débats intenses entre nous, ce sujet passionnant utopie-dystopie a fait ressurgir chez moi un souvenir d'enfance que j'ai mis de côté. Une série télévisée que m'avait fait découvrir mon père, grand fan de science-fiction, biberonné à quelques programmes qu'il ne fallait surtout pas louper, comme Cosmos 1999 ou encore Star Trek. Cette série se passe dans une nouvelle dimension, une dimension faite non seulement d'images et de sons, mais aussi d'esprit. Une expérience entre réalité et fiction, un champ d'hypothèses entre science et religion, dans une contrée sans fin dont les frontières sont votre imagination. Entrez donc dans la quatrième dimension. Ça commençait à peu près comme ça à chaque fois. La quatrième dimension, The Twilight Zone, est une série télévisée américaine de science-fiction en 138 épisodes de 25 minutes et 18 épisodes de 50 minutes, créée par Rod Serling et diffusée entre le 2 octobre 1959 et le 19 juin 1964 sur le réseau CBS. Histoire fantastique, étrange, énigmatique, cette série fut tournée entièrement en noir et blanc, dans un environnement plutôt contemporain, même si quelques épisodes ramènent le spectateur à l'époque du western ou le transportent dans le futur. Les histoires utilisent peu d'effets spéciaux, peu de scènes à grand spectacle, peu de violence. Les décors et les costumes sont assez sobres et tranchent souvent avec le caractère exceptionnel d'une histoire fantastique qui vient souvent perturber une vie sans soucis et bien rangée des années 60. Cette série est une perle d'inventivité. À l'époque, l'imagination des auteurs, puisqu'il y en avait plusieurs, était à l'honneur et le peu de temps et de moyens techniques leur demandait une créativité beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Je pense que cette série a dessiné les règles et plusieurs grandes thématiques de la science-fiction et du fantastique. Si je vous en parle, c'est que nous retrouvons dans certains épisodes l'idée d'une société dystopique ou encore une utopie qui cache un sombre secret. Je me dois aujourd'hui de vous donner l'envie d'en visionner quelques-uns en rapport avec notre sujet du moment. Le premier épisode dont je vais vous parler, c'est dans la saison 3, épisode 24, drôlement nommé « Comment servir l'homme ?». Nous sommes dans un monde où une civilisation extraterrestre intelligente, représentée par des humanoïdes avec un crâne gigantesque, partage la Terre avec nous autres, les humains. Leurs représentants passent leur journée à clamer qu'ils n'ont qu'un seul but dans la vie, comment servir l'homme, qu'ils chérissent plus que tout et préparer un vaisseau spatial pour les emmener visiter leur planète. Comme l'on peut s'en douter, un groupe de résistants réticents ne croit pas en cette histoire et complote pour renverser les dirigeants de ce groupe extraterrestre. L'épisode se termine par la découverte de la part d'un des opposants dans l'un des vaisseaux en partance pour la nouvelle planète à découvrir d'une sorte de guide ou bible intergalactique qu'il traduit comme cela, comment servir l'homme, sauf que il s'avérera que c'est un livre de recettes de cuisine. L'image s'estompe, c'est la fin de l'épisode. Dans l'épisode « Assez de temps, enfin », nous suivons un petit homme qui passe son temps à lire des romans et à se faire rejeter par tout son entourage car il est dans la lune. Son patron, sa femme, ses clients, il est banquier, le houspille tellement car il a le nez dans ses romans. Un jour, qu'il va se planquer dans le plus grand coffre de la banque où il travaille, le monde s'embrase en une milliseconde. La Russie et les États-Unis s'envoient mutuellement une attaque nucléaire. Il n'y a plus rien, plus personne. Mais lui est sauvé. Le coffre de la banque est assez résistant pour supporter la bombe. Il sort dehors, d'abord triste et chamboulé, mais s'aperçoit vite qu'il va pouvoir enfin lire tranquille tous les bouquins du monde. Enfin la liberté. J'ai oublié de vous dire que notre protagoniste porte de grosses lunettes. L'épisode se termine par cet homme effondré car il casse ses seules lunettes qu'il a. Triste fin apocalyptique. Dans l'épisode 10 de la saison 3, Soleil de minuit, le monde de Norma Forest semble sur le point de s'achever. La Terre a quitté son orbite et se rapproche du Soleil. Les habitants de New York fuient vers le nord, mais Norma et sa voisine n'ont pas la volonté de partir. Le Soleil se rapproche dangereusement de l'appartement de Norma. Elle s'évanouit. C'était un cauchemar. Mais Norma se réveille dans un appartement quasi congelé de l'intérieur. La Terre est en fait en train de s'éloigner du Soleil. Il fait si froid que l'on rêve de soleil. Notre héroïne se rendort. C'est la fin de cette tranche de la quatrième dimension. Dans un autre épisode encore, nous sommes dans un monde où les prisonniers sont envoyés sur des planètes désertes, dans les quatre coins de la galaxie. Une nouvelle loi passe pour que l'on envoie des sortes de robots de compagnie à tous les prisonniers. S'y attacheront-ils ou non? Vous le saurez dans le prochain épisode de la quatrième dimension. Bon, vous voyez, rien d'exceptionnel, vous me direz. Mais si, justement. Toutes ces inventions, largement inspirées des livres de science-fiction de l'époque, ont marqué une génération car ils n'avaient jamais été posés sur le petit ou le grand écran. De plus, avec très peu d'effets spéciaux, c'est comme si la série n'avait pas pris une ride. Alors, comme on peut voir dans l'épisode, par exemple, du monsieur qui était lunaire et qui lisait des bouquins, c'est que pour représenter une guerre, la caméra était posée sur le personnage, la caméra bougeait juste de haut en bas, il y avait juste des bruits, et c'est ce qui faisait les effets spéciaux de l'époque, et ça marchait quand même. Donc très peu d'effets spéciaux et malgré tout la série ne prend pas une ride quoi. On peut la regarder encore maintenant sans problème, même si c'est du noir et blanc, ça passe quand même. Si justement votre travail est de faire un exposé sur l'utopie et la dystopie, je ne peux que vous la conseiller. J'espère que vous sortirez indemne de ce monde sans temps et sans limite qu'est la quatrième dimension.
Voici trois livres incontournables sur le thème de l'utopie, chacun explorant cette notion sous un angle différent. Le premier, c'est Utopia, sorti en 1516 de Thomas More. Ce classique de la littérature de la Renaissance présente une société idéale, une île imaginaire où règne l'harmonie sociale et politique. L'ouvrage critique les injustices de l'Angleterre de l'époque et invite à réfléchir sur les fondements d'une société juste. Le deuxième livre, c'est L'an 2440, rêve s'il n'en fut jamais, 1771, de Louis-Sébastien Mercier. Ce roman visionnaire imagine la vie à Paris au XXVe siècle, où les progrès techniques et sociaux ont permis une utopie. Mercier aborde des thèmes de liberté, de progrès et de conditions humaines, tout en proposant une critique des structures de son époque. Le troisième ouvrage s'appelle « La République ». Il a été écrit vers 380 avant Jésus-Christ. C'est Platon qui a rédigé cet ouvrage. Bien que plus ancien, ce dialogue de Platon est l'un des fondements philosophiques de l'idée d'une société idéale. Platon y présente une république gouvernée par des philosophes rois où chaque citoyen occupe une place qui lui est propre en fonction de ses talents et de ses vertus. Ces livres offrent une diversité de perspectives sur l'utopie, de la critique sociale à la recherche du bonheur collectif, et demeurent des œuvres majeures pour comprendre ce concept complexe. Voici trois livres marquants sur le thème de la dystopie, chacun abordant la question des sociétés futuristes, totalitaires ou déshumanisantes sous un angle unique. Le premier, c'est 1984 de George Orwell, sorti en 1949. L'un des plus célèbres romans dystopiques, 1984, dépeint une société totalitaire où la liberté individuelle est écrasée sous le poids de la surveillance omniprésente et de la manipulation de la vérité par un gouvernement autoritaire. Le roman introduit des concepts célèbres tels que le Big Brother et la Novlangue, soulignant les dangers du totalitarisme et de la perte de liberté personnelle. Le deuxième livre qui va traiter de dystopie s'appelle « Le meilleur des mondes », d'Adolf Huxley, sorti en 1932. Ce roman propose une vision d'un futur où l'humanité est organisée selon des principes de stabilité sociale et de consommation, mais au prix de la liberté individuelle, de la créativité et de l'émotion authentique. La société du meilleur des mondes repose sur une uniformité absolue et la quête du bonheur y est matérialisée par le conditionnement et le contrôle des désirs. Le troisième livre dont j'aimerais vous parler s'appelle « Fahrenheit 451 » de Ray Bradbury, sorti en 1953. Dans un futur où les livres sont interdits et brûlés, ce roman explore les conséquences d'une société où la censure et l'ignorance sont imposées par un régime autoritaire. Le protagoniste, un pompier chargé de brûler les livres, commence à questionner la signification de la liberté et de la pensée individuelle dans un monde où la culture et la connaissance sont supprimées. Ces ouvrages, chacun avec son propre regard critique sur le futur, illustrent les dangers des régimes oppressifs et des sociétés déshumanisées. Ils continuent d'alimenter la réflexion sur la liberté, la surveillance et le contrôle social. Maintenant, je voudrais vous parler de trois films qui abordent le thème de l'utopie, chacun offrant une vision différente d'une société idéale ou d'un monde parfait. Le premier film s'appelle ou s'intitule Demolition Man, sorti en 1993. Ce film de science-fiction réalisé par Marco Brambilla se déroule dans un futur utopique où la violence et le crime ont disparu grâce à une société extrêmement régulée. Les citoyens vivent dans une sorte de paradis, mais cet ordre parfait est atteint au prix de la liberté individuelle. Le film met en lumière les tensions entre la sécurité et la liberté et explore ce qu'il en coûte pour créer une société sans conflit. Ensuite, je vais vous parler de The Giver, sorti en 2014, c'est donc un film, adapté du roman de Lois Lowry. Ce film présente une société où tous les aspects de la vie sont régulés afin d'assurer l'égalité et l'absence de souffrance. Les émotions, les choix et la mémoire du passé ont été éliminés pour maintenir l'ordre. Le protagoniste, un jeune homme nommé Jonas, découvre peu à peu que cette utopie a un prix terrible. Le film soulève des questions sur le sacrifice de la liberté pour une harmonie artificielle. Et le dernier film dont je voudrais vous parler, sorti en 2015, s'appelle Tomorrowland. Réalisé par Brad Bird, ce film est inspiré de la célèbre exposition de Disneyland. Il raconte l'histoire d'une jeune fille qui découvre un monde secret et avancé technologiquement, Tomorrowland. Un lieu où l'innovation et l'imagination ont créé une société idéale. mais cette utopie est menacée par la perte de l'espoir et de l'optimisme dans le monde réel. Le film invite à réfléchir sur la possibilité de créer un avenir meilleur et sur l'importance de la vision positive. Ce film offre diverses interprétations de l'utopie, oscillant entre le rêve d'un monde parfait et la réalité de ce qu'il faudrait sacrifier pour y parvenir. Maintenant, je vais vous parler de trois films emblématiques qui abordent le thème de la dystopie, chacun explorant des sociétés futuristes totalitaires, déshumanisantes ou apocalyptiques. Le premier, c'est Blade Runner, réalisé par Ridley Scott en 1982. C'est basé sur un roman de Philip K. Dick, dont je ne vous donne pas le titre parce que je parle très mal anglais. Ce film est un chef-d'œuvre de la science-fiction dystopique. Il se déroule dans un futur sombre où les réplicants, des androïdes humanoïdes, sont créés pour servir les humains. Le film explore les thèmes de l'identité, de l'humanité et de la morale, dans un monde où l'exploitation des individus et la destruction de l'environnement sont omniprésentes. Blade Runner interroge ce qui fait de nous des êtres humains dans une société marquée par la perte de sens et de repères. Un autre film dystopique s'appelle The Hunger Games, sorti en 2012, adapté de la trilogie de Suzanne Collins. Ce film se déroule dans un futur où la société est divisée en districts, opprimée par un gouvernement totalitaire, le Capitole. Pour maintenir le contrôle, le Capitole organise chaque année les Jeux de la faim, un combat à mort entre adolescents des districts. Le film suit Katniss Everdeen, une jeune fille qui se porte volontaire pour remplacer sa sœur dans les Jeux. The Hunger Games explore les thèmes de la résistance, de la surveillance et du contrôle social, tout en mettant en lumière les inégalités économiques et les violences structurelles. Le troisième et dernier film dystopique dont je vais vous parler s'appelle Children of Men, sorti en 2006. C'est un film de science-fiction réalisé par Alfonso Cuarón qui se déroule dans un futur où l'humanité est confrontée à l'infertilité généralisée, rendant la naissance d'un enfant impossible depuis près de 20 ans. La société s'effondre, plongée dans le chaos et la violence. L'histoire suit Théo, un homme désabusé qui se voit confier la mission de protéger une femme enceinte, l'unique porteuse d'espoir pour l'avenir de l'humanité. Le film examine les thèmes du désespoir, de la survie et de la lutte pour un avenir dans un monde où tout semble perdu. Ce film offre une vision puissante de sociétés dystopiques où l'injustice sociale, la répression et la perte d'humanité sont les éléments centraux du récit.
Merci Frédéric. Maintenant, Marie-Laure va nous parler de l'utopie en Côte d'Ivoire.
Mon père avait raison. La vie est un combat. Jamais, jamais baisser les bras.
Une utopie en Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, les responsables doivent être vigilants sur la sécurité. Depuis la guerre en 2002, le pays est déstabilisé. Il doit y avoir des aides pour les soins, pour les plus démunis. À quoi bat la sécurité sociale? À quoi bat veut dire bienvenue dans ma langue. Les soins devrait être moins cher. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas te soigner. Il y a même des femmes enceintes qui n'ont pas pu eu la chance de pouvoir accoucher dans des conditions correctes. Les diplômés n'arrivent pas à trouver du travail. Le travail se gagne par piston et non par compétences parfois. Abidjan est très sale et il faudrait que les dirigeants revoient la salubrité et qu'ils emploient plus de personnes pour cela. Cela créera des emplois. Il manque des lieux pour s'occuper des ordures et le village d'Akodo est très pollué, par exemple. Il faut créer beaucoup plus d'écoles publiques car il y en a très peu et il faut payer très cher pour être scolarisé dans les écoles privées. Avec toutes ces petites avancées, le pays pourrait être une véritable utopie.
Merci Marie-Laure pour ce constat sur l'état de la Côte d'Ivoire. Et maintenant, poursuivons avec Alice qui va nous parler des Miss France.
Alors, Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Alice et je me pose deux questions. Je voulais savoir si vous pensez que qu'être une Miss France est utopique, c'est-à-dire le statut de Miss France, est-ce que ça crée l'utopie? Et la deuxième question est de savoir, est-ce que le discours des Miss France est utopique? Je peux répondre que ça peut s'entendre quand on pense que c'est axé sur des valeurs universelles comme la paix, la solidarité, l'égalité, la protection de l'environnement. S'il y en a qui comprennent pas, ça veut dire qu'il y en a, par exemple, il y a des valeurs comme je veux la paix dans le monde, je ne veux plus de guerre ou des choses comme ça. Mais il faut savoir aussi que la mise en œuvre de ces idées, elle est confrontée à des réalités. Pour les mettre en œuvre, c'est assez complexe et c'est une réalisation difficile à mettre en place. Pourquoi on peut penser que le discours des Miss France est utopique? Alors j'ai réfléchi un petit peu et en fait il y a plusieurs points qui ressurgissent. Le premier étant les idéaux nobles et inspirants qu'elle revendique. Car c'est fait pour plaire au plus grand nombre et les Miss France abordent souvent des sujets consensuels et idéalisés. Par exemple, un monde sans inégalité ou lutter pour une planète plus durable. Mais en même temps, c'est une vision qui est séduisante et c'est facile à réaliser. Ou alors c'est des idées qui sont éloignés du quotidien de tout le monde, étant pris comme des défis. En deuxième point, j'aimerais voir aussi que être Miss France et le discours qu'elles ont, il s'agit d'un cadre limité. Elles ont peu de temps pour développer leurs idées profondes ou concrètes de leur discours. C'est aussi parce qu'elles ont des règles strictes pour pouvoir accéder à ce rêve, à ce Graal qui est être Miss France. C'est vrai que tout le monde ne peut pas être Miss France aujourd'hui. Et même si on pouvait faire en France que tout le monde puisse être Miss France, dans l'international, ça n'irait pas parce qu'il y a des règles qui ne changent pas, qui changent pour Miss France, qui ne changent pas dans les concours internationaux de beauté dans le monde en ce moment. Donc je disais qu'être Miss France, il y a un cadre limité parce qu'il y a aussi par exemple la taille, il faut qu'elles aient un casier judiciaire vierge, donc ça limite beaucoup la participation à ce concours. Et être Miss France aussi, c'est avoir un rôle symbolique, car avant tout c'est une fonction représentative. Elles ont peu de moyens ou peu d'influence pour transformer leurs paroles en actions à grande échelle. Et ça peut être perturbant sur le long terme. Parce que quand on vit l'expérience Miss France, par exemple, je ne sais pas, quand je suis devant la télé et que je vois Miss France, ça fait plus rêver et on ne réfléchit pas trop à ce qu'on voit à ce moment-là. Et je voulais voir aussi le discours des Miss France. C'est un discours qui est assez adapté au contexte des concours. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de neutralité, d'universalité. Et les Miss France ne peuvent pas toujours traiter de sujets sensibles ou complexes. Elles doivent rester dans les normes du concours. Donc, en conclusion de ça, ces discours sont utopiques, car ce sont des messages positifs, parfois biaisés, parfois idéalisés. Mais cependant, c'est une plateforme pour sensibiliser des causes importantes, mais à portée limitée et symbolique. Miss France est un rêve rare à accéder, qui peut sembler utopique, mais qui est bien réel, si on s'y consacre pleinement. Et tout dépend de la perception et des attentes que l'on place dans cette aventure. Voilà en gros ce que je voulais dire sur le concours de Miss France. Et en aparté, je voulais rappeler que moi, par exemple, par rapport à mon expérience, je n'ai pas été Miss France, mais je sais que, par exemple, par rapport à l'idéal qu'on se fait de la Miss France, une femme belle doit être belle et voilà, tu es belle et tu t'es. Quand il y a eu certaines Miss France qui ont commencé à parler à certains après avoir été élues, on leur a souvent fait le reproche de tu es belle, tu es là pour représenter la France, tu es belle, tu te tais, tu es belle et tais-toi. Et ce que je pense sincèrement, c'est que le concours Miss France montre, réveille un côté bestial de l'humain. En tout cas, ça fait réagir, ce qui est rassurant car on n'est pas des robots. Et soit on aime, soit on ne supporte pas Miss France. Voilà.
Un petit merci et un petit lien pour Alice.
Autodidacte, c'est des contrats.
On arrive au terme de cette émission. On espère qu'elle vous a plu. Ça a été un thème particulièrement ardu. Malgré cela, on a appris beaucoup de choses. Nous avons essayé de l'aborder sous différentes facettes artistiques, philosophiques. Nous avons l'utopie que cette émission ait rendu le monde plus heureux. En tout cas, nous, oui.
Autodidacte, c'est des contrats.
Autodidacte, c'est des contrats.
Grâce à Autodidacte, on a la patate.